Guillaume, pour ceux qui ne connaissent pas Guillaume, c'est le monsieur qui était à la guitare là juste à côté, il y a quelques instants, qui est le responsable des jeunes, quand il est venu me voir pour me dire, bien, on voudrait vraiment aborder ce thème dans le cadre de l'Église et dans le cadre aussi des réunions de jeunes. Et bien évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Je lui ai dit, c'est mon désir aussi. Et donc, je suis allé même au-delà de ce qu'ils demandaient, puisqu'ils demandaient qu'on soit présent et qu'on puisse être avec eux dans le cadre de la réunion de jeunesse. C'est ce que nous avons fait pendant un soir avec eux. Mais je lui ai même proposé d'intervenir le dimanche matin devant toute l'église, ce qu'il a fait. Il y a donc quelques semaines de cela, on était déjà connectés avec Cholet. Donc, Cholet va pouvoir avoir la deuxième partie aujourd'hui de ce thème et bénéficier de ce travail que nous faisons ici, parce que je pense que ça touche toutes les églises, sans exception. Il y a comme ça des renouvellements de générations et il faut se préparer pour cela. Donc, j'étais très heureux de pouvoir faire cela avec Guillaume. Je lui ai laissé la première partie, la première place donc, et puis je prends ce qui vient après à partir de ce qu'il a dit et de ce qu'il a partagé. Il y a donc un mois de cela, au début du mois. Et donc, on va poursuivre sur ce thème-là. Je fais un bref résumé de ce qu'il a partagé avec nous sur la transmission dans le cadre de l'Église. Il a voulu faire un état des lieux de la transmission qui se pratique dans notre Église. Donc, en posant cette question, alors il a posé beaucoup de questions, vous vous souvenez, un certain nombre qui pouvaient nous concerner les uns les autres, mais il y avait une question générale qui dominait toutes les autres, c'était qu'est-ce que nous transmettons? La question que nous avons été invités à nous poser l'autre jour au travers de son intervention, c'est de nous poser vraiment la question qu'est-ce qu'on transmet aux autres? On transmet toujours quelque chose. De toute façon, c'est inévitable. À partir du moment où nous sommes avec d'autres, on leur transmet quelque chose. Mais est-ce qu'on leur transmet quelque chose de bon, quelque chose qui les aide à grandir, quelque chose qui les aide à avancer? Donc, c'est ce qui l'a développé pour nous en partant de l'exemple, vous vous souvenez de David, le tueur de géants, qui a fabriqué, lui, avec ceux qui étaient venus le rejoindre, d'autres tueurs de géants, hein, et qui ont aussi tué d'autres géants par la suite. Et bien évidemment, quand on transmet quelque chose de nous-mêmes, et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de David, et prenant bien sûr la transmission là où elle existe d'abord, c'est-à-dire dans le cadre de la famille, lorsque nous avons des enfants, et nous sommes appelés bien sûr à leur transmettre quelque chose, et là, quand on regarde la société aujourd'hui, on s'aperçoit que dans ce domaine, il y a quand même beaucoup de lacunes. Hein, on parle souvent de la démission des parents dans ce domaine. Alors, ce n'est pas tous les parents, bien sûr, mais il y a malheureusement aussi de cela dans la société actuelle. Et on voit par exemple les profs, moi j'ai des profs dans ma famille, et ils sont, voilà, on leur demande de tout faire, l'éducation des enfants, pas seulement transmettre un savoir, mais il faut tout leur apprendre, parce qu'à la maison, certains n'ont rien du tout, en fait. Il n'y a pas véritablement de transmission faite par les parents. Et ça a amené, donc, Guillaume a posé un certain nombre de questions que je qualifierais de pertinentes. Hein, c'est ce qu'on a l'habitude de dire maintenant. Questions pertinentes qui correspondent véritablement aux besoins et à ce que nous devons nous demander, nous poser comme questions. Et puis, il a aussi revenu dans le cadre de l'Église, bien sûr, il y a la transmission au niveau de la famille, mais il y a la transmission au niveau de l'Église. Sur le plan collectif, nous transmettons bien sûr un message. Nous sommes là pour transmettre le message biblique, mais toujours dans un contexte. On transmet ce message dans un contexte culturel, notamment, c'est-à-dire dans une forme. Et cette forme-là, elle peut évoluer, elle peut changer. On reviendra là-dessus dans quelques instants. Et il a insisté sur le fait que parfois, la forme, qui peut avoir son importance, mais ce qui n'est pas le plus important, la forme peut devenir une norme. Et ça, c'est le danger. Et donc, on ne peut plus rien bouger dans les manières de faire et bien évidemment avec une nouvelle génération et souvent une nouvelle culture qui va avec, il convient de changer un peu les formes, la manière que nous pouvons faire les choses dans notre Église. Et puis il a terminé en parlant de David qui, s'il était un grand roi, un grand chef militaire, un grand musicien, un grand poète, ce n'était pas un grand-père non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Un grand-père, en deux mots. Ce n'était pas un bon père. Il a eu beaucoup, beaucoup d'échecs dans ce domaine. S'il avait été aussi bon père qu'il avait été roi, je pense que... Parce que probablement, c'est plus difficile d'être père que d'être roi. Et David en a fait l'amère expérience. Et il a connu des drames dans sa famille, avec ses enfants, parce qu'il n'a pas su leur transmettre ce qu'il fallait leur transmettre. Il n'a pas su leur donner ce qu'il fallait leur donner, il n'a pas su intervenir quand il fallait intervenir. Et parfois, il y a des erreurs comme ça qui sont irréversibles, hein, avec des conséquences qu'on ne peut pas changer. Et c'est ce que David a connu, des drames personnels. Et là, il y a un cri qui retentit lorsqu'on lit l'histoire de David dans le Livre des Rois, c'est quand... À la mort d'Absalom, il crie deux fois « Absalom, Absalom !» qui venait juste de mourir. Il était déchiré par cela, mais il était aussi responsable. Alors, on ne veut pas connaître cela, bien sûr, avec nos enfants, avec ceux qui sont sous notre responsabilité. Et il convient de prendre très au sérieux, bien évidemment, notre rôle dans ce domaine. On va aborder donc une deuxième partie... ce matin, c'est le thème de la transmission, et je voudrais vous parler d'une double transmission. On a une transmission qui va dans deux directions. Ici, quand on parle de l'Église, la transmission, et ça sera donc le plan. Ce matin, on va parler d'une transmission en interne, qui est dirigée vers ceux qui sont dans l'Église. Et puis, une transmission, bien évidemment, qui s'est tournée vers l'extérieur. On a cette double responsabilité avec la transmission. Donc, on va s'intéresser ce matin d'abord à notre première responsabilité, qui est celle de transmettre au sein même de cette Église. Nous sommes appelés à être des transmetteurs. Alors, bien évidemment, quand nous sommes des parents, et que nous avons des enfants, nous sommes appelés à leur transmettre en tant que parents chrétiens un message, des valeurs, comme on a l'habitude de le dire maintenant. Ça, c'est notre responsabilité et ça a été la responsabilité que Dieu avait donnée dès le départ. On le sait, ces textes ont déjà été pris, on ne va pas s'étendre très longtemps, mais je les rappelle quand même, ils sont importants. Dans la responsabilité des parents à l'égard de leurs enfants. Si on lit le texte de Deutéronome 6 juste après le Shema Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Dieu. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi, ou quand tu marcheras le long d'une route, ou quand tu te coucheras, ou quand tu te lèveras, c'est-à-dire en toutes circonstances. Hein, nous sommes appelés à transmettre, à enseigner. C'est ce que Dieu demandait aux Israélites. Pour ne pas les oublier, tu les attacheras sur ton bras et sur ton front, tu les écriras sur les montants de portes de ta maison et sur les portes de tes villes. Et vous savez, c'est ce qu'ils ont pratiqué, et c'est ce que certains pratiquent encore aujourd'hui, avec les phylactères, hein, ils portent des versets bibliques sur eux. Mais ce n'est pas tout à fait ça que Dieu leur demandait. Il leur demandait surtout de communiquer, de transmettre sa parole donc pour chacun de ses enfants. Et on a un autre texte qu'on trouve dans le livre des psaumes, le psaume 78. C'est un poème d'Asaph qui dit « Mon peuple, prête l'oreille à mon enseignement ». Tendez l'oreille aux paroles de ma bouche, j'ouvre la bouche pour une parabole, j'énonce les énigmes des temps anciens, ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont redit, nous ne le dissimulerons pas à leurs fils, redisant à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les miracles qu'il a opérés. Et il a dressé un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël qu'il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils. Vous voyez, ça revient dans ce psaume, pour qu'ils connaissent ceux de la génération future. Des fils naîtront, ils se dresseront et la rediront à leurs fils, ils mettront leur assurance en Dieu, ils n'oublieront pas les actes de Dieu, ils observeront ses commandements. Donc, vous retenez ce qui est clair, là, il y a une partie qui n'est pas très claire. Et donc, il convient pour les parents de transmettre. Il y a un mois de cela, j'étais aux États-Unis, à Washington, et j'étais invité pour aller visiter un musée. À Washington, il y a plus de 200 musées, donc vous avez l'embarras du choix, mais il y en a un de plus, là. Mais celui qui vient d'être construit et nous intéresse particulièrement parce que c'est le musée de la Bible. Et en plein cœur de Washington, à deux blocs du Capitole, il y a ce musée. Alors, c'est un bâtiment assez impressionnant, de 40 000 mètres carrés sur 6 étages. Et la Bible est à l'honneur. C'est un homme, un chrétien, qui a des moyens, qui a des gros, gros moyens. Et qui a voulu créer ce musée. Donc le voilà. Ensuite, si tu peux avancer. Oh. Voilà, ça c'est l'entrée du musée. Et ensuite, ça c'est au sommet. Vous avez le Capitole, la coupole là, au fond. Et puis vous avez là, sur le toit, cette partie là sous verrière, et donc c'est un bâtiment extraordinaire. Et puis j'étais avec Bob Hoskins. J'ai pas mis la photo de Bob. Vous avez la photo de Barry. Si je vous parle de ce musée où j'étais, c'est pour parler de Barry. Barry a été invité cette journée, et il a partagé son histoire personnelle. Alors, c'était dans le cadre du livre de vie de One Hope, et pour ceux qui connaissent, bien sûr, vous savez qu'il s'agit de distribuer la Bible aux enfants, et dans le monde entier. Et c'est un ministère qui, et justement, on est en train de fêter les 30 ans de cette organisation chrétienne à ce moment-là, donc à Washington, dans le musée de la Bible. Et ils ont invité Barry parce que c'est aussi l'aumônier du Sénat américain. La coupole n'est pas loin, et c'est lui l'aumônier depuis quelques années. Il est un peu le Thierry Le Gall américain, si vous voyez ce que je veux dire. Thierry Le Gall, nous avons depuis quelques temps, et Thierry est venu à Angers au mois de mai pendant les élections, et son ministère et auprès des parlementaires ici en France, donc le Sénat et l'Assemblée nationale. Et donc, c'est le correspondant là-bas, aux États-Unis, auprès des parlementaires américains. Et Barry nous a raconté son histoire. Il a grandi dans une famille très, très pauvre, monoparentale. Donc, son père, il n'a pas beaucoup connu. Il était à Baltimore, dans le Maryland. Et dans un quartier très pauvre, sa mère dépendait des services sociaux pour vivre. Enfin bon, ils avaient très très peu, de moyens. Et un jour, ils ont reçu dans la boîte aux lettres un prospectus qui annonçait des réunions qu'un évangéliste venait faire dans la ville. Et cet évangéliste, c'est un petit malin, il savait que c'était un quartier très très pauvre, et il a dit: écoutez, si vous voulez trouver une richesse incomparable, venez entendre ce message qui va vous être donné. Il ne parlait pas de l'Évangile. La maman de Barry s'est dit, ils ont peut-être un secret pour devenir riche, pour que je puisse m'en sortir, etc. Donc elle est allée à cette réunion. Et là, elle a entendu cet évangéliste qui a apporté l'évangile et qui parlait d'une richesse, mais pas celle qu'elle attendait, bien évidemment, mais d'une autre richesse. Et elle a découvert cette vraie richesse, elle a découvert l'évangile. Et elle s'est convertie à ce moment-là. Et elle s'est attachée à la Bible, elle a commencé à lire la Bible et à suivre là, les réunions dans une église et à amener ses enfants. Et ses enfants, bien évidemment, elle était très attachée à la Bible, elle voulait qu'ils apprennent la Bible, elle voulait leur transmettre. Elle avait lu les textes de Deutéronome et de psaume 78 et elle voulait leur communiquer la parole. Alors pour les inciter à apprendre la Bible, à apprendre des versets par cœur, elle leur donnait un peu d'argent quand ils avaient bien appris un verset. Alors c'était un centime ou deux centimes. Alors, dès qu'ils avaient appris un verset, ils venaient lui réciter le verset et puis elle leur donnait un centime. Alors, Barry raconte que lui, quand il était tout petit, bien sûr, à ce moment-là, parce que quand sa mère s'est convertie, elle était enceinte de Barry. Donc, il a connu voilà, sa mère uniquement chrétienne, on peut dire. Et très jeune, sa mère donc avait institué ça dans la famille pour qu'il puisse apprendre la Bible. Et lui, donc tout petit, il se souvient qu'il apprenait les versets bibliques. Alors lui, il a commencé par les versets les plus courts, bien sûr. Alors, ils étaient moins bien payés que les autres. Hein. Mais bon, il a commencé par le plus court de la Bible, que vous connaissez bien, c'est dans Jean 11, c'est « Jésus pleura ». C'est pas trop dur à se rappeler. Hein. « Jésus pleura ». Donc, il a eu droit à un centime ou deux pour cela. Et il dit très vite, « J'ai appris tous les petits versets de la Bible. Tous les plus courts versets de la Bible, je les ai appris par cœur. » Et puis après, il dit, en grandissant, j'avais besoin un peu plus d'argent. Donc, j'ai commencé à apprendre des versets un peu plus longs. Donc, il avait un peu plus d'argent comme ça. Et c'est comme ça qu'il a appris la Bible. Mais, il nous a raconté cela ce jour-là, il raconte que il apprenait la Bible, il pouvait réciter, mais cette Bible n'avait pas vraiment produit des fruits en lui, en fait. Hein, il savait, mais il ne vivait pas. Et quand il est arrivé à l'âge de l'adolescence, il a rejoint un gang à Baltimore et ils ont commencé à aller dans la délinquance, à faire des casses, des cambriolages de toutes sortes. Et il raconte que là, il était dans une spirale vraiment descendante et qui était catastrophique et qui pouvait être catastrophique. Elle aurait été catastrophique. Il dit un jour, le chef de gang avait planifié de faire un casse dans une banque et donc ils devaient en faire partie, ils étaient trois ou quatre je crois. Ils devaient en faire partie et le jour où il devait faire ce casse, il a un verset biblique qui lui est revenu. Et ce verset disait, c'était un des plus courts qu'il connaissait depuis très très longtemps, le commandement qui dit « tu ne voleras pas ». C'est pas long, hein, « tu ne voleras pas ». Et il dit, ça s'est imprimé là. Et il dit, je me suis tourné vers mes copains et je leur ai dit, écoutez, je n'irai pas aujourd'hui. Je n'irai pas. Et il a bien fait de ne pas y aller. Parce que le cas s'est très mal passé, il y a eu un meurtre. Et ses copains, il y en a un qui a écopé de la peine de mort. Et les deux autres de la prison à vie. Et lui, probablement qu'il aurait fini pareil. Toute sa vie aurait basculé. Ça a tenu à un verset, à une parole, à une mère qui disait, voilà ce que la Bible dit, voilà la parole de Dieu. Alors, on a le sentiment parfois que cette parole, elle ne s'imprime pas, oui. On se dit, ouais, ils la connaissent, peut-être, ils peuvent réciter, mais ça ne change rien. Et puis, à un moment donné, cette parole, c'est la parole de Dieu. Et c'est sa parole, et quand il envoie son esprit, à un moment donné, et cette parole, elle percute, comme elle a percuté Barry à ce moment-là. Et Barry, vous savez ce qu'il est devenu ? Parce que je vous ai dit qu'il était aumônier, mais il n'est pas seulement aumônier. Il est rentré dans la Navy, dans la marine américaine, et il est devenu amiral. Il est aujourd'hui amiral et aumônier du Sénat. Et tout est parti d'une mère qui a transmis cette parole à son fils. Et les autres enfants ont une aussi une carrière. C'était une famille très, très pauvre, je vous le disais au départ. Et tous les enfants ont une brillante carrière professionnelle, une vie de famille avec des enfants, des petits-enfants maintenant. Ne sous-estimons pas notre rôle. C'est d'abord le rôle des parents. L'Église n'est pas là pour remplacer les parents. Parfois, les parents comptent beaucoup sur l'Église pour faire le travail qu'eux ne font pas. Et ça, c'est regrettable. On ne pourra pas remplacer, on ne pourra pas vous remplacer, vous, les parents. C'est votre mission première, de transmettre. Si vous ne transmettez pas, on pourra tout transmettre, mais ça ne suffira pas. C'est vous les premiers modèles, les premiers exemples. Alors que l'Église est un rôle, oui, elle a un rôle, puisqu'on accueille ses enfants dans l'Église, avec les parents. Et c'est le rôle que la plupart des églises ont, bien évidemment, au travers même de structures comme le club des enfants, comme on l'appelle aujourd'hui. Autrefois, on appelait ça l'école du dimanche. Mais l'école du dimanche, vous savez, ça a été une invention au 19e siècle dans les églises. À Londres, ça a commencé à Londres, mais ça n'a pas commencé pour les parents pour les enfants qui étaient à l'intérieur des églises. Ça a commencé pour les enfants qui étaient à l'extérieur de l'église. Et les chrétiens voulaient aussi que ces enfants puissent entendre, et donc ils allaient les chercher avec l'autorisation des parents pour qu'ils puissent entendre l'évangile dès leur jeune âge. Alors bien sûr, les pasteurs ont dit « Ah, ben si on le fait pour les enfants à l'extérieur, on va le faire pour les enfants à l'intérieur, c'est pas une mauvaise idée. » Mais ça a eu un effet pervers. C'est que pour beaucoup de parents, c'est de dire « Ben, ils font le travail, moi j'ai pas à le faire. » Parce qu'avant, on faisait le travail à la maison. Dans le peuple juif, cette mission, elle était remplie par les parents à la maison, de transmettre la Torah. Alors, il peut y avoir une certaine démission de la part des parents, d'où le rappel qui a été fait par Guillaume l'autre fois et que je fais encore aujourd'hui en disant « Vous avez votre responsabilité, les parents, à cet égard. Ne vous déchargez pas sur l'Église pour votre responsabilité. L'Église peut être partenaire, oui, associée et compléter ce que vous faites à la maison, c'est le rôle de l'Église. Et on le fait avec ici, dans cette Église, depuis le départ, j'ai envie de dire, depuis qu'on a eu des enfants dans cette Église. Et nous avons eu bien des générations qui sont passées par le club des enfants. Et après, on a un club d'ados, on a le groupe de jeunes. Vous voyez, il y a vraiment tout un dispositif dans l'Église pour transmettre le mieux possible ce message biblique. Il y a des outils aussi qui existent. Comme je travaille, vous le savez, pour une association, j'en parlais tout à l'heure, One Hope ou le Livre de Vie, qui a pour objectif de donner, transmettre l'Évangile aux enfants et aux jeunes dans le monde, eh bien, on a un outil qui existe, que beaucoup d'entre vous, vous connaissez, mais si, au cas où vous ne connaissiez pas, vous, parents, eh bien, je vous fais un peu la pub pour ça. C'est une application que vous pouvez télécharger gratuitement. Voilà. Bible pour les enfants, c'est une appli pour les enfants, vous téléchargez ça gratuitement, vous avez 40 histoires bibliques. Alors c'est pour les enfants de 4, 5 ans à 7, 8 ans, oui, c'est la tranche d'âge. Et vous avez 40 histoires bibliques, et les enfants, alors, sur la tablette, sur le téléphone, vous pouvez, il y a même le livre qui est sorti aussi, la Bible, papier, donc, de cette application qui est sortie. Et puis donc, vous pouvez, il y a près de 20 millions de téléchargements de cette application aujourd'hui dans le monde. Elle existe dans 32 ou 33 langues différentes. Et elle va, vous savez, avec ça et grâce à ça, la Bible va dans des régions du monde où la Bible est interdite. Parce que c'est quand même difficile de vérifier sur le téléphone, vous voyez. Et on l'a dans, je ne dirais pas les pays, parce qu'on est enregistré et ça sort d'ici, mais il y a des pays, je connais ces pays, où cette application est téléchargée. On a les chiffres, hein, on a toutes les stats sur le téléchargement dans tous les pays de cette application. Donc vous pouvez l'utiliser et je donne l'info, j'en dirai un peu plus quand ça sera en ligne, mais on va mettre en ligne là pour Noël aussi des supports qui seront gratuits aussi, qui seront sur Internet et pour aider les parents notamment à transmettre l'Évangile au travers de cette application, au travers des histoires qui sont bibliques, qui ont été choisies dans cette application. Et donc des ressources qui vont être utiles à la fois pour les parents, et on mettra aussi d'autres ressources pour les animateurs dans les clubs des enfants qui utilisent cette application pour les premières classes dans le club des enfants. Donc voilà, il y a des outils, ça en est un, il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui qui sont à disposition des parents pour les aider à communiquer cette parole avec comme impératif, j'ai envie de dire, de communiquer cette parole. J'avais une note que j'ai plus, c'est pas grave. De communiquer cette parole, et on va prendre le psaume 145. Que chaque génération glorifie tes œuvres, qu'elle raconte tes exploits, la magnificence éclatante de ta gloire, je méditerai le récit de tes merveilles. Il y a cette idée que chaque génération est appelée à glorifier les œuvres de Dieu. Mais pour que chaque génération glorifie les œuvres de Dieu, il faut bien transmettre ces œuvres de Dieu. Il ne faut pas seulement les transmettre, les faire connaître, il faut aussi les transmettre avec ferveur, avec conviction, avec joie, et j'ai envie de dire même avec jubilation. Parce que si on transmet l'Évangile comme parfois on transmet le catéchisme, ça ne va pas forcément amener les gens ou les enfants à glorifier les œuvres de Dieu. Il faut que nous-mêmes, nous ayons le désir et envie de glorifier les œuvres de Dieu. Ce n'est pas seulement une connaissance, un savoir que nous transmettons, c'est une réalité et une expérience que nous avons faite. Et ça, les enfants, ils le sentent bien, vous savez. Ils sentent si on est en train de vivre ce qu'on dit. Et ils le vérifient tous les jours, ils vivent avec nous. Donc, transmettre avec jubilation, avec ferveur. Je passe vite au deuxième point. La transmission aussi, elle est tournée vers l'extérieur. Dans l'Ancien Testament, on le sait, cette transmission était réservée dans le cadre de la famille, essentiellement. C'était la responsabilité. Après, il y a eu transmission, bien sûr, il y avait transmission au temple et dans la synagogue et autres, mais là, dans le cadre familial, pour les enfants, c'était essentiellement la famille. Cette transmission s'est faite dans ce cadre-là et ça a permis à chaque génération de recevoir cette parole. Et vous savez, quand on se pose la question, comment ce peuple, 3500 ans après, a pu garder si fortement son identité pour retrouver même son pays en Israël, ça en fait partie, largement ça en fait partie. Alors tout le monde ne l'a pas fait, bien sûr, il y a eu des ratés, mais d'une certaine manière, c'est parce que cette transmission de la parole s'est faite de génération en génération. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné sa loi à Moïse, mais il n'a pas dit je vais faire ça avec chaque génération. Non, il a dit je donne ma loi à Moïse, et après il a dit à Moïse, maintenant c'est à vous, à chaque génération, de transmettre à la nouvelle génération. Et c'est comme ça que cette loi est passée de génération en génération. Ça reste la même chose, bien évidemment, pour l'Église aujourd'hui. C'est, par exemple, ce qu'il faisait dire à Paul dans Éphésiens, au chapitre 6, « Enfants, c'est votre devoir devant le Seigneur, ça va plaire aux parents, d'obéir à vos parents, car cela est juste. Respecte ton père et ta mère. » Vous pouvez y aller, vous pouvez donner un petit coup de coude, si vous voulez, à votre enfant. C'est le premier commandement suivi d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Puis maintenant, ça va plaire aux enfants. Vous pouvez donner un petit coup de coude, si vous voulez, à votre mère ou à votre père, s'il est là. Et vous, père, n'allez pas irriter vos enfants par votre attitude. Mais élevez-les en leur donnant une éducation et une discipline inspirées par le Seigneur. Il y a une version qui dit « en les instruisant selon le Seigneur ». Donc, ce qui était vrai pour Israël, c'est vrai pour l'Église aussi, bien sûr. Ça ne change pas la responsabilité, elle reste sur les parents. Mais avec l'Église, il y a quelque chose d'autre qui ne se passait pas avec Israël. La transmission en Israël, elle était pour Israël, elle n'était pas pour les autres peuples. Alors que la transmission dans l'Évangile, pour l'Église, elle est pour l'Église, bien sûr, pour le peuple de Dieu, mais aussi pour ceux qui sont à l'extérieur. Et c'est ça la particularité. Et c'est pour cela que nous avons ces versets que vous connaissez bien, mais que j'ai mis dans Matthieu et dans Marc. Matthieu, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est comme ça que se termine l'évangile de Matthieu. Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc il y a une transmission planétaire, on peut dire, universelle de cette parole. C'est une responsabilité que nous avons les uns et les autres de transmettre cette parole non seulement aux nôtres, à ceux qui sont à l'intérieur et notamment dans nos familles, mais à ceux qui sont à l'extérieur aussi. Ça, c'est la responsabilité de chaque génération dans l'Église. Et chaque nouvelle génération, puisqu'on s'intéresse à la nouvelle génération, ici dans notre Église, est la mieux qualifiée pour transmettre ce message à cette nouvelle génération. Autrefois, la jeunesse, enfin de tout temps, la jeunesse a toujours eu les mêmes caractéristiques à peu près. On a toujours parlé de la même manière, la jeunesse, c'est forcément, c'est l'énergie, hein. C'est cette espérance dans l'avenir, c'est être porteur de projets, d'idées nouvelles. C'est les jeunes qui font les révolutions, hein. Ce n'est pas les vieux, pas les retraités qui font les révolutions, quoique des fois. Mais c'est les jeunes, les utopistes, les idéalistes, ceux qui ont voilà, envie de changer le monde et faire des choses nouvelles, ce sont les jeunes. Et ça, ça a toujours été caractéristique de la jeunesse, bien sûr. On se souvient, nous, quand on était jeunes aussi, on avait de grandes idées de grands projets. C'est toujours vrai, bien sûr, mais il y a quand même des différences avec les autres générations, quand on parle de la génération, les générations actuelles. Il y a toujours une vision du monde. Mais la vision du monde est devenue très différente de celle des parents, en fait. Avant, une génération arrivait, il y avait la fougue, il y avait, voilà, on voulait faire des choses, entreprendre, etc. Mais on restait avec les mêmes valeurs, même vision du monde que la génération précédente. Il n'y avait pas vraiment de changement à ce niveau-là. Les piliers dans chaque génération, c'était les institutions qu'il pouvait y avoir dans la société, alors la famille, bien sûr, il pouvait y avoir l'école ou l'église aussi. Ça, c'était les piliers qui donnaient une stabilité, une régularité d'une génération à l'autre. Ces piliers-là, ils ont explosé, hein, pratiquement. Quand on parle de la famille, l'Église encore moins. Donc, il a fallu trouver autre chose. Et quand on lit un peu ce que les sociologues peuvent dire à ce sujet, c'est assez surprenant quand ils parlent des nouvelles générations, parce qu'on assiste pratiquement à chaque génération à un changement de culture. Une autre manière de voir les choses, de faire les choses. On a connu au XXe siècle plusieurs générations. Alors, c'est un classement qui est fait par des sociologues. Tous les sociologues ne sont pas tout à fait d'accord sur ce classement, mais à grosso modo, ça revient à peu près à ça. En ce qui concerne les années, si tu peux décliner. Donc, il y a eu d'abord la génération silencieuse, entre 25 et 45, génération silencieuse. C'est ceux qui ont pris la grande dépression économique. En 29, c'est ceux qui ont pris la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, vous voyez, voilà. Ça a été une génération assez silencieuse, vous voyez. Après, il y a eu les baby-boomers, hein, 46 à 64. Il y en a ici quelques-uns, ok, j'en fais partie. La génération X, 65 à 79, alors il peut y avoir une différence de 4-5 ans, mais ce n'est pas très grave, vous pouvez vous retrouver. La génération Y, de 80 à 2000, et puis la génération Z, ensuite. Quand on regarde ces générations Y et Z en particulier, c'est la nouvelle génération, On peut dire que ce qui caractérise, alors il n'y a pas que ça qui caractérise cette génération, mais voilà ce qui les caractérise. C'est une génération hyper connectée, une génération hyper consommatrice, hyper individualiste et hyper narcissique. Donc, particulièrement individualiste. Alors, ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas, hein, mais ça va un peu plus loin. Hein, il y a le phénomène selfie, vous voyez ce que c'est, hein, narcissique. Alors, c'est une tendance. Alors, bien évidemment, vous allez dire, moi, je ne me retrouve pas, c'est certainement vrai. Mais là, quand les sociologues parlent, ils parlent de tendance générale, ils généralisent, bien évidemment, hein, des courants forts dans la société. Hyper consommatrice, c'est une génération qui est dans la consommation. Mais la particularité, c'est que, vous savez, les grandes sociétés, elles ont vu le marché que pouvait représenter la nouvelle génération, et les enfants en particulier. Autrefois, les grandes marques, elles s'intéressaient aux parents, elles parlaient aux parents parce que les parents achetaient. C'est fini, ça. Les grandes marques, elles parlent aux enfants parce que c'est les enfants qui décident. Et ce n'est pas seulement pour un produit, hein. C'est une histoire autour d'un produit. C'est une façon de voir les choses, une façon de ressentir les choses. C'est tout cela qui est communiqué aussi au travers de ces marques. Et dans le but d'une gratification immédiate, l'important c'est d'être satisfait, tout de suite. Il y a quelqu'un qui a défini ainsi la génération nouvelle en disant c'est la Trinité moderne. Vous connaissez la Trinité que nous connaissons, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité moderne, il dit, de cette génération, c'est moi, moi-même et je. La Trinité moderne. Et j'ai lu quelque part que l'année dernière à Melbourne, comme dans toutes les villes et les grandes villes, ils mettent des sapins de Noël, vous savez, à la période de Noël. Et là, ils avaient mis un sapin de Noël, un grand sapin de Noël, et tout en haut du sapin, on met toujours, qu'est-ce qu'on met ? Une étoile, un ange, enfin voilà. Là, il y avait deux mots, mi, moi, tout en haut du sapin. Moi. Quand même symptomatique. Et je disais aussi que c'est particulièrement vrai en Russie, quand vous avez votre compte Facebook, vous pouvez marquer votre religion, et à religion, un certain nombre de Russes, vous savez ce qu'ils mettent ? Je crois en moi. Je crois en moi. Ça, c'est caractéristique de la société dans laquelle nous sommes. La culture aussi de la célébrité. Aujourd'hui, grâce à Internet ou à cause d'Internet, on peut être célèbre en quelques jours. On peut être un inconnu au fond d'une campagne, mais si on fait une vidéo qui a un impact original, ça va faire le tour du monde, ça va faire le buzz, comme on dit. Et vous pouvez devenir une célébrité et gagner même beaucoup d'argent. Alors, le rêve de beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est ça, en fait. Face à cela, nous sommes appelés à transmettre l'Évangile. À ce contexte, à cette culture, à cet état d'esprit. C'est un défi pour chaque génération. Ça n'a pas été plus facile forcément pour les anciennes. Hein. Je crois que chaque génération a connu ses défis à ce niveau-là. Mais si vous êtes devant une société qui est hyper narcissique et que vous avez un message qui est axé énormément sur le plaisir et la gratification immédiate, et que vous avez un message dans lequel il est dit « il faut mourir à soi-même », ça risque de ne pas passer. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourtant, ça fait partie du message. Alors, ne commencez pas à évangéliser avec ça, parce que je ne suis pas sûr que vous allez être écouté très longtemps. Il y a d'autres portes d'entrée pour apporter l'Évangile. Il y a des centres d'intérêt que les jeunes ont, et que ça va leur parler, et qui se trouvent dans l'Évangile. Mais ça fait partie de l'Évangile. Donc comment transmettre ce message aujourd'hui ? Le message, lui, ne doit pas changer, bien sûr. Il faut le transmettre, mais on n'est pas obligé de transmettre aujourd'hui, comme premier message d'évangélisation à cette génération, il faut que vous appreniez à mourir à vous-même. Il y a d'autres choses à dire, qu'on peut dire, sur le message de l'Évangile à cette génération. Il faut forcément tenir du public qui écoute. Et c'est ce que chaque génération a fait. C'est ce qu'on a fait ici dans cette église. Les générations, ça fait plus de 60 ans, il y a eu plusieurs générations. Et les anciennes générations, elles se sont adaptées au public qu'elles avaient. Et c'est ce qui a donné, bien sûr, les résultats que l'on connaît, parce qu'ils ont su parler à ce public-là. Alors si le public y change, bien évidemment, il va falloir changer la manière dont on apporte ce message. Il faut changer les formes de présentation, la manière de communiquer qui tient compte de cette culture de la jeunesse, la manière de présenter l'Évangile. En plus, il n'y a pas une seule jeunesse, il y a des jeunesses. Tout dépend d'où vous venez. Donc il faut savoir présenter. L'autre jour, nous étions invités par les jeunes, quelques anciens de cette église, pour transmettre. Et on nous posait des questions. Alors, il y en avait deux que vous allez reconnaître qui étaient là. Vous reconnaissez ? Monsieur et Madame Laroche. Hein ? Claude et Michel. Alors, c'est la même salle, hein, vous avez vu ? Vous reconnaissez, hein ? Mais ce n'est pas tout à fait le même dispositif, vous voyez. Ce n'est pas tout à fait le même décor. Il s'appelle Osmose. Et puis, voilà, c'était une conversation qu'on avait, pendant laquelle on a pu transmettre. Et bien évidemment, ça parlait aux jeunes. Et ils ont été touchés par ce qui a été dit et partagé par l'ancienne génération. Et c'est ça qu'il faut arriver à trouver. Ce n'est pas simple, hein. Ce n'est pas simple du tout, je vous le dis. Mais il faut y arriver. Et pour terminer, je prendrai une illustration biblique. L'illustration biblique, c'est pas un récit moins connu que David et Goliath, hein, ou Daniel dans la fosse aux lions. Mais ça fait partie de la Bible, et je pense que certains d'entre vous, vous connaissez cet épisode biblique. On est ramené 700 ans en arrière, 700 ans avant Jésus-Christ, pour être plus précis, et c'est pendant la période où, à Juda, à Jérusalem, il y avait le roi Ézéchias. Vous avez entendu parler du roi Ézéchias. Et il y avait comme prophète le prophète Ésaïe. Voilà, excusez du peu, quand même. Avoir le prophète Ésaïe dans sa génération, c'était pas mal du tout. Et il y avait une menace qui se faisait, qui venait du nord. C'était à l'époque de l'empire assyrien. Ninive, donc Mossoul, hein, aujourd'hui en Irak, et c'était un empire qui étendait son hégémonie partout, bien sûr, c'était un véritable rouleau compresseur, et le royaume d'Israël, le royaume du Nord, Samarie, avait déjà été détruit par les Assyriens, et bien sûr, la prochaine étape dans le programme militaire des Assyriens, c'était Juda, Jérusalem, c'était de détruire Jérusalem. Donc, ils sont arrivés, les Assyriens, à Jérusalem, bien sûr, Jérusalem, c'est pas facile à prendre, c'était quand même une forteresse, hein. Il y avait des murailles, c'était pas simple, donc ils pouvaient pas le faire comme cela. Donc, dans un premier temps, les Assyriens ont voulu négocier avec le roi Ézéchias pour essayer de dire, écoutez, si vous voulez bien vous rendre, hein, ça éviterait quand même des morts. Ils ont fait une négociation, je ne rentre pas dans les détails de ces négociations, j'ai plus le temps pour ça, j'en viens à l'essentiel de ce que je veux dire. Il s'est passé quelque chose parce qu'à l'intérieur des murailles, dans la ville de Jérusalem, on parlait hébreu, bien sûr. Mais l'Empire, lui, les Assyriens, ils ne parlaient pas hébreu. Il y en a quelques-uns, justement, là, il y en a quelques-uns qui parlaient hébreu, mais ils ne parlaient pas hébreu, ils parlaient araméen, ce qui a été parlé après, ça a été la langue, bien sûr, en Israël aussi. Mais à l'époque, c'était vraiment l'hébreu qui était parlé à Jérusalem. Et quand il s'adressait à l'extérieur, il s'adressait avec la langue des Araméens. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'on voit qu'à l'intérieur de Jérusalem, pour le peuple de Jérusalem, ils utilisaient une langue qui était l'hébreu pour eux. Et cette langue-là, elle était importante pour eux. C'était dans cette langue que la loi avait été transmise, la Torah, la loi de Moïse. C'est dans cette langue qu'ils avaient appris à prier, à chanter des psaumes. C'est dans cette langue qu'ils avaient reçu les promesses de Dieu. C'est cette langue, dans cette langue qu'il leur avait été appris les œuvres de Dieu, tout ce que Dieu avait accompli dans le passé. C'est dans cette langue que leur identité s'était construite, en fait. C'était le message à l'intérieur. Mais quand ils s'adressaient à l'extérieur, ils utilisaient l'araméen, la langue de l'empire dominant, de la culture dominante. Mais avec une vision qui était la leur, qui avait été communiquée dans l'hébreu, dans ce rapport à la Torah, à la loi de Dieu, à la parole de Dieu. C'est ça qu'ils avaient construit, c'est ça qui avait été la base de leur identité. Alors après, ils utilisaient une langue pour communiquer avec les autres qui n'était pas la leur. Et je crois que ça nous donne une illustration pour nous rappeler notre rôle. On est dans cette église et c'est un peu comme les habitants de Jérusalem à Jérusalem. Et on a nos codes, on a notre langue, parfois certains l'appellent le patois de Canaan, et on a notre façon de dire les choses, notre façon de parler. Et ça, c'est important pour nous, parce que c'est ce qui nous construit, en fait. C'est ce message de la Bible que nous aimons. Vous êtes là ce matin, dimanche matin, c'est parce que vous avez envie de connaître ce message. Et c'est notre langue à nous, on peut dire. Et cette langue, elle est importante. Maintenant, si on veut s'adresser à ceux qui sont à l'extérieur, il va falloir qu'on change de langue aussi. Si on utilise notre langage à nous, il ne va pas forcément être compris, ce message. Et il faut connaître la langue à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on change nos valeurs, mais on utilise un langage qui est connu par les autres. Nous devons être capables de traduire ce message dans la culture qui est dominante, en fait, dans notre société. Et si on s'adresse à des jeunes, il faut connaître leur langage pour pouvoir leur communiquer un message qu'ils comprennent. Alors bien sûr, ça va imposer un changement de forme, comme ça a déjà été le cas depuis un certain nombre d'années, et que ces formes soient plus adaptées au public que nous avons. Alors si on laisse plus de place à ces jeunes, effectivement, il y aura des formes nouvelles, des manières de faire différentes. Je rentrerai certainement un peu plus dans le détail dans cela, dans l'avenir, mais que tout cela soit fait dans l'esprit de l'apôtre Paul, et ce sera le dernier verset que nous allons lire. Parce que Paul a été confronté à ça aussi, de son temps. Chaque génération, en fait. Et il y avait des cultures différentes du temps de Paul. Et il ne pouvait pas apporter l'évangile de la même manière avec des juifs ou avec des païens. C'était des cultures très différentes. Alors Paul a écrit ceci. Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Qu'est-ce que ça voulait dire être serviteur de tous pour Paul? Ça veut dire qu'avec les juifs, j'ai été comme juif afin de gagner les juifs. Alors on va dire, lui il était juif, c'était plus simple pour lui. Ouais, mais c'était plus un légaliste comme ces juifs attachés à aux traditions et aux lois cérémonielles concernant l'alimentation, par exemple. Donc avec ceux qui sont sous la loi, dit-il, j'étais comme sous la loi. Ça veut dire que s'il allait dans une maison juive qui ne mangeait pas de porc, eh bien, où il recevait des gens comme ça, il n'allait pas leur offrir du porc, bien évidemment. Il se mettait sous la loi dans cet aspect-là. Ça ne veut pas dire que lui s'interdisait cela, mais il le faisait par amour pour ces gens, pour pouvoir les gagner, afin, dit-il, de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sous la loi, comme étant sans loi. Et pourtant, je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu, mais sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui ne sont pas, ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Vous voyez ? Et ça doit être notre principe de base. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, Je donne des coups de poing non pas pour battre l'air, au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. C'est à ce niveau-là que nous devons ressembler à Paul. Et ce n'est pas facile. Ça impose des sacrifices. Des choses auxquelles on va renoncer par amour pour les autres, pour gagner les autres. Mais c'est ce qui compte le plus. Et je voudrais vraiment qu'on s'engage à ça les uns les autres. Et on va avoir un temps de prière, j'invite les musiciens à revenir, le groupe de louanges. Et on va demander au Seigneur de nous aider après dans ce qu'il conviendra de faire exactement. Il faudra l'aide de Dieu, bien évidemment. Mais nous devons demander à Dieu, nous allons demander à Dieu de nous aider à faire cela. Seigneur. Et je vous invite à vous lever si vous voulez bien. Seigneur, nous te remercions pour d'abord ce que nos pères ont fait pour nous, pour cette génération qui est concernée ici, parce qu'ils ont fait certainement des sacrifices afin de gagner le plus grand nombre. Ils ont renoncé à certaines choses qu'ils auraient voulu aimer, afin de pouvoir gagner la nouvelle génération. Et c'est encore notre défi aujourd'hui face à une autre nouvelle génération que nous voulons gagner, Seigneur. Que ce soit celle qui est à l'intérieur de l'Église ou soit celle qui est à l'extérieur de l'Église. Nous voyons combien le monde change vite, Seigneur. Nous sommes tous là pour le constater et le dire. Alors c'est pour cela que nous devons changer vite aussi, nous adapter vite. Il n'y a pas de temps à perdre, Seigneur, pour que nous puissions apporter un message qui soit entendu, qui soit reçu, qui soit percutant. Alors je te prie, Seigneur, de nous aider les uns et les autres dans la transmission de ce message, afin, Seigneur, qu'il atteigne les cœurs, Seigneur, de tous ceux qui seront à l'écoute de ce message. Bénis chaque église ici, Seigneur, l'église d'Angers, l'église de Cholet, dans cette mission-là, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, cette intelligence spirituelle, cette clairvoyance, Seigneur, que l'apôtre Paul a eue et a transmis au travers de ce texte que nous avons lu, Seigneur, afin que nous soyons prêts aussi à renoncer, à faire ces sacrifices pour l'amour des autres, l'amour de cette nouvelle génération. Nous sommes là, Seigneur, pour passer ce relais, pour passer ce bâton, Seigneur. Et nous ne voulons pas passer à côté, Seigneur. Alors tu nous aides les uns et les autres, chacun ici à sa part, Seigneur. Inspire-nous encore. Dans le nom de Jésus.